Isabelle Eberhardt, le magicien. Si à Bethléem habitait une petite maison caduque, en pierre brute grossièrement blanchie à la chaux, sur le toit de laquelle venait s'appuyer le tronc recourbé d'un vieux figuier aux larges feuilles épaisses. Deux pièces de ce refuge étaient en ruine. Les deux autres, un peu surélevées, renfermaient la pauvreté fière et les étranges méditations de Si Abesselem le Marocain. Dans la cour délabrée, autour du grand figuier abritant le puits et le dallage disjoint, il y avait quelques pieds de jasmin, seul luxe de cette singulière demeure. Alentour, c'était le prestigieux décor des collines et des vallons verdoyants, sertissant comme un joyau la blanche Arnéba. Le soleil s'était couché derrière le grand dôme morose et l'incendie pourpre de tous les soirs d'été s'était éteint sur la campagne alanguie. Si Abdeselem se leva. C'était un homme d'une trentaine d'années, de haute taille, svelte dans les vêtements larges dont la blancheur s'éteignait sous un burnous noir. Un voile blanc encadrait son visage bronzé, émacié par l'éveil, mais dont les traits et l'expression étaient d'une grande beauté. Le regard de ses longs yeux noirs était grave et triste. Il sortit dans la cour pour les ablutions de la prière du Maghreb. La nuit sera celle et belle, et j'irai réfléchir sur les eucalyptus de la rivière d'or. Quand il eut achevé la prière et le dhikr du bienheureux cheikh Sidi Abdelkader Djiani de Bagdad, Si Abdeselem sortit de sa maison. La pleine lune se levait là-bas, au-dessus de la haute mer calme, à l'horizon à peine embrumi de vapeurs légères d'un gris de lin. Tout à coup, les féroces petits chiens des demeures bédouines proches du cimetière grondèrent, sourdement d'abord, puis coururent, hurlant vers la route de Sidi Ibrahim. Alors, Sidi Abdeselem perçut un appel effrayé, une voix de femme. Surpris, quoique sans hâte, le solitaire traversa la prairie, et arrivant vers la route, il vit une femme, une juive richement parée, qui tremblante s'appuyait contre le tronc d'un arbre. « Mais que fais-tu là, ici, la nuit ? » dit-il. « Je cherche le Sahara, sorcier, Si Abdeselem, le Marocain. J'ai peur des chiens et des tombeaux, protège-moi. » Et c'est donc moi que tu cherches à cette heure tardive et seule. Viens. Les chiens ne connaissent et les esprits ne s'approchent pas de celui qui marche dans le sentier de Dieu. La juive le suivit en silence. Abdeselem entendait le claquement des dents de la jeune femme et se demandait comment cette créature parée et timide avait pu venir là, seule, après la tombée de la nuit. Ils entrèrent dans la cour et Si Abdeselem alluma une vieille petite lampe bédouine fumeuse. Alors, s'arrêtant, il considéra son étrange visiteuse. Svelte et élancée, la juive, sous sa robe de brocart bleu pâle, avec sa gracieuse coiffure mauresque, était belle d'une troublante et étrange beauté. Elle était très jeune. « Que veux-tu ? On m'a dit que tu sais prédire l'avenir. J'ai du chagrin et je suis venu. Mais pourquoi n'es-tu pas venu de jour comme les autres ? Donc, que t'importe, écoute-moi et dis-moi quel sera mon sort. » « Assieds-toi, » dit-il. Alors la juive parla. « J'aime, » dit-elle, « un homme qui a été cruel envers moi et qui m'a quitté. Je suis resté seul et je souffre. Dis-moi s'il reviendra. Donne-moi son nom et celui de sa mère et laisse-moi faire le calcul que m'ont appris les sages du Maghreb, ma patrie. » El Boustangar, fils de Fatima. Sur une planchette, Si Abdeselem traça des chiffres, des lettres, puis avec un sourire, il dit Juive, ce musulman qui s'est laissé prendre à ton charme trompeur et qui a eu le courage louable de te fuir, reviendra. La juive eut une exclamation de joie. Oh, fit-elle, je te récompenserai généreusement. Mais toutes les richesses ne récompenseraient point dignement le trésor inestimable et amer que je t'ai donné, la connaissance de l'avenir. À présent, Sidi, j'ai quelque chose encore à demander à ta science. Je suis Raïl, fille de Ben-Ami. Et elle prit le roseau qui servait de plume au Taleb et l'appuya contre son cœur, tandis que ses lèvres murmuraient des paroles rapides indistinctes. Bon, il vaudrait mieux pour toi ne pas tenter de savoir plus entièrement ce qui t'attend. Pourquoi ? Oh, réponds, réponds. Mais soit. Et si Abdelselem reprit son grimoire mystérieux. Tout à coup, un violent étonnement se peignit sur ses traits et il considéra attentivement la femme. Si Abdelselem était poète, il se réjouissait du hasard étrange qui mettait en contact avec son existence celle de cette juive qui, selon son calcul, devait être tourmentée et singulière et finir tragiquement. « Écoute, dit-il, et n'accuse que toi-même de ta curiosité. Tu as causé la fortune de celui que tu aimes. Il l'ignore, mais d'instinct peut-être il a fui. Mais il reviendra et il saura. Allez, oh Raïl, Raïl, en voilà-t-il assez ? Faut-il tout te dire ? » Tremblante, livide, la juive fit un signe de tête affirmatif. « Bien, tu auras encore avec celui qui doit venir une heure de joie et d'espérance. Puis tu périras dans le sang. » Ces paroles tombèrent dans le grand silence de la nuit sans écho. La juive cacha son visage dans les coussins anéantis. « C'est donc vrai ? Tout à l'heure au Maghreb, j'ai interrogé la vieille Tirsa, la gitane de la porte du jeudi. » Je l'ai pas cru, je l'ai insulté. Et toi, tu me répètes plus horriblement encore ta sentence. Mais pour rire, pourquoi ? Je suis jeune, je veux vivre. Voilà, c'est ta faute. Tu étais le papillon éphémère dont les ailes reluisent des couleurs les plus brillantes et qui voltige sur les fleurs, ignorant de son heure. Tu as voulu savoir. Et te voilà devenu semblable au héros mélancolique qui rêve dans les marécages enfiévrés. La juive affalée sur le tapis sanglotait. Si Abdelselem la regardait et réfléchissait avec la curiosité profonde de son esprit scrutateur affiné dans la solitude. Il n'y avait pas de pitié dans son regard. Pourquoi peindre cette Rahil ? Tout ce qui allait lui arriver n'était-il pas écrit, inéluctable ? Et ne pouvait-elle pas la vulgarité et l'ignorance de son esprit en se lamentant de ce que la destinée lui avait donné en partage, un sort moins banal que celui des autres, plus de passion, plus de vicissitudes en moins d'années, la sauver du dégoût de l'ennui ? « Rahil, dit-il, Rahil, écoute, je suis celui qui blesse et qui guérit. Celui qui réveille et qui endort, écoute, Rahil. » Elle releva la tête, sur ses joues pâlies des larmes coulaient. Cesse de pleurer et attends-moi, il est l'heure de la prière. Si Abdelselem prit dans une niche élevée un livre relié en soie brodé d'or, et l'ayant pieusement baisé, l'emporta dans une autre pièce. Puis, dans la cour, il pria l'achat. Raïl, seul, s'était relevé et accroupi. Elle songeait et sa pensée était lugubre. Elle regrettait amèrement d'avoir voulu tenter le sort et savoir ce qui devait lui arriver. Si Abdelselem rentra avec un sourire. « Eh bien, dit-il, ne savais-tu pas que tôt ou tard tu allais mourir ? J'espérais vivre, être heureux encore et mourir en paix. » Si Abes Salam haussa les épaules dédaigneusement. Raïl se leva. « Que veux-tu comme salaire ?» La voix de la juive était devenue dure. Il resta silencieux, la regardant. Puis, après un instant, il répondit. « Me donneras-tu ce que je te demanderai ?»« Oui, si ce n'est pas trop. » « Je prendrai comme salaire ce que je voudrai. » Il lui prit les poignets. Elle fut insolente. « Laisse-moi partir, je ne suis pas pour toi, lâche-moi. »« Mais tu es comme la grenade mûre tombée de l'arbre. Pour celui qui la ramasse, le bien trouvé, le bien de Dieu. »« Non, laisse-moi partir. » Et elle se dégagea. Si Abes Salem hocha la tête. « Bon, ben, va à ton destin, j'irai au mien. » Rouge et ardent, baigné d'or pourpré, le soleil se levait au-dessus de la mer d'une nuance lilacée, nacrée, où de légers serpents d'argent couraient rapides, fugitifs. Le long de l'ouest des Hèbes, limpide et tranquille, sous les eucalyptus bleuâtres, Si Abdes Salem s'avançait lentement, rêveur. Tout à coup, sur la plage déserte, parmi les herbes longues et verdâtres, les coquillages blancs et les galets noirs, Si Abdes Salem aperçut un corps de femme couché sur le dos, vêtu d'une robe de brocart rose et enveloppé d'un grand châle de cachemire. Il s'approcha et se pencha, soulevant le châle. Il reconnut la juive, jeune et belle, les yeux clos, les lèvres retirées dans un sourire douloureux. Deux coups de baïonnette avaient transpercé son corps et le sang inondait sa poitrine. Si Abdes Salem se redressa. Il regarda le cadavre un instant et dans sa pensée, il détailla les souvenirs doux d'une nuit lointaine. Puis du même pas tranquille, il reprit sa promenade dans la splendeur plus ardente du jour éblouissant.